Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Bonjour Jean-Claire.
Bonjour.
Nous sommes ensemble pour aborder deux de vos derniers ouvrages, Dialogue avec les morts et l'hiver de la culture, dans lesquels vous déplorez à la fois les faux-semblants de l'art contemporain et médiatique, les difficultés à sortir des discours convenus. Vous y parlez de livres, d'amour, des autres, d'art et bien sûr de vous. Dans L'hiver de la culture, un pamphlet paru chez Flammarion dans la collection Café Voltaire en mars 2011, Jean-Claire pourfend une fois encore l'inflation du culturel et cherche à habiter la terre en poète en nous rappelant l'aura de l'œuvre d'art, son effacement, son lien au lieu qu'il a vu naître. Ses cris de colère contre l'art contemporain, contre les musées, contre le marché de l'art que vous pourriez avoir entendu sont à nouveau visité par Jean-Claire, dont la plume court patiemment sur les lignes de partage entre sa passion pour l'art et son art des mots. Il porte le flambeau d'un Karl Kraus qu'il aime à citer, contre les conformismes intellectuels et institutionnels, et dédie ce qu'il appelle ce petit livre aux artistes. Quelques mots pour vous présenter, Jean-Claire. Écrivain depuis l'âge de 22 ans, conservateur des musées de France, vous avez aujourd'hui 71 ans. Vous êtes historien de l'art, commissaire d'exposition, rappelons Mélancolie au Grand Palais en 2005 et Crime et Châtiment plus récemment en 2010 au musée d'Orsay. Parmi vos livres, plus d'une cinquantaine, citons une monographie de peintre, celle de Sam Safran ou celle sur Balthus, des essais et on pourrait aussi signaler à ceux qui l'ignorent la publication de votre journal et à titre d'exemple pour les années 2007 et 2008, La Tourterelle et Le Chat-Huant. Signalons aussi une trentaine de vos écrits sur l'art qui ont été écrits entre 80 et 87 et qui ont été rassemblés dans un ouvrage publié en 2008 qui s'appelle Autoportrait au visage absent. Alors nous allons parler de l'hiver de la culture. Vos positions y sont radicales, mais ne semblent pas entendues suffisamment pour inverser le cours des choses, cette affirmation d'un art moderne comme une marchandise, une vision de l'art que vous combattez depuis plusieurs années. Alors pourquoi revenir à la charge ? Ou qu'est-ce qui a motivé ce nouveau cri d'alarme ?
Oh, vous savez, vous dites les positions radicales, en fait le livre est né d'une grande incertitude et d'une grande inquiétude. Donc je ne suis pas moi-même au fait avec mes propres doutes et mes propres angoisses vis-à-vis de la création contemporaine et vis-à-vis, ce qui me paraît plus important encore, du rôle des musées aujourd'hui dans le dispositif culturel. Je pose beaucoup plus de questions que je n'apporte de réponses et je me pose moins encore comme un réformateur de société. Je pense qu'on est de toute façon embarqué dans une histoire qui nous dépasse considérablement et je ne crie pas au secours et je ne propose pas de solution. Je pose simplement la question, à quoi servent les musées aujourd'hui et d'autre part, la mercantilisation effrénée du produit culturel et en particulier du produit artistique, la soi-disant œuvre d'art, ne sont-elles pas la marque funèbre de la fin d'une ère qui a été dominée et par l'idée d'un musée consacré à la culture de l'esprit humain et en même temps l'idée d'un codicille funèbre aussi à l'idée d'un artiste voué à l'expression d'une intériorité psychique, morale, mentale, spirituelle. Tout ça me semble progressivement se déliter, partir en poussière et laisser derrière soi un grand vide alors que paradoxalement, jamais il n'y a eu autant de monde dans les musées, jamais les expositions n'ont attiré autant de visiteurs, jamais on a autant acheté, et jamais on a construit autant de musées. Mais ce que moi je vois, j'ai quand même passé 40 ans de ma vie au service des musées, ce que moi je vois au contraire, c'est une espèce d'immense désarroi qui se cache à l'intérieur même de cette espèce d'inflation cancéreuse de l'idée culturelle qui prétend passer à travers les musées et la marchandisation de l'art. Parallèlement.
Alors effectivement, vous commencez le livre par votre vision de cet art moderne dit reconnu, médiatique, mais qui est profondément amnésique. Et vous revenez vraiment sur ce lien entre les conditions de naissance d'une œuvre, à la fois sur le lieu qu'il a vu naître, mais aussi dans la chaîne des individus qui l'ont amené.
Oui, oui. Je rappelle tout de même que ce que nous appelons art est tout de même un phénomène extrêmement récent au regard de la longue durée de la culture humaine en tant que l'homme est capable de produire des images, c'est-à-dire depuis 35 000 ans à peu près. Au regard de cette très longue durée, ce que nous appelons aujourd'hui « art », entre guillemets, avec un A majuscule, présenté dans des lieux appelés musées ou dans des galeries, c'est un phénomène tout à fait ultime, une espèce d'excroissance ultime d'une très très longue histoire, et qui me fait me poser le problème de savoir à quoi ça sert. Parce qu'à toutes les époques, dans tous les siècles, l'art n'existait pas comme ça en l'air. Il avait une utilité, il avait une fonction. Il n'a pas été fait pour les musées. Il était fait pour attirer la bienveillance des dieux pendant très très longtemps. Il a été fait pour apaiser la colère des dieux pendant aussi longtemps. Il a été fait pour honorer les puissances terrestres et temporelles pendant très longtemps. Il a été fait pour finalement exalter l'humanité de l'homme et la raison humaine et la puissance humaine au temps des Lumières. Puis il a finalement été, et là les choses ont commencé à mal tourner, à être l'illustration d'une utopie sociale, où quand l'artiste était considéré comme un mage ou comme un prophète qui annonçait la société future, c'est allé du romantisme jusqu'au régime totalitaire. Et puis à partir de là, lorsque la croyance dans les dieux s'est évanouie, la crainte des dieux s'est évanouie aussi, la révérence envers les puissants du monde a disparu, mais aussi la croyance dans les utopies sociales a fondu au soleil, il n'est rien resté. Donc à quoi sert l'art aujourd'hui? Sinon effectivement à, comment dire, à exalter l'ego surdimensionné, comme on dit, l'ego hypertrophié d'un homme qui s'appelle artiste, qui a souvent été autoproclamé artiste, et qui aurait tout pouvoir, une omnipotence égale à celle d'un dieu. Il y a là évidemment une espèce de déclin, de corruption fondamentale qui fait qu'effectivement on ne sait plus à quoi sert une œuvre d'art. Une œuvre d'art, encore une fois, d'abord ne s'appelait pas à l'origine une œuvre d'art. L'art c'était la possibilité, la technique, la maîtrise qui vous permettait de fabriquer quelque chose. Et la chose qui était fabriquée, encore une fois, pour une tierce personne, qui était un dieu, qui était un puissant, qui était un démon, qui était un roi, qui était un prince, qui était un idéal social. Ce n'était pas fait pour exprimer l'intériorité ineffable d'un homme proclamé artiste et qui s'appellerait Jeff Koons ou Murakami, et auquel des lieux vénérables et anciens comme le château de Versailles offriraient temporairement un refuge. Là, on est dans quelque chose de grotesque et de scandaleux, et qui n'a d'existence évidemment que par la mercantilisation. C'est-à-dire que ces œuvres qui n'ont aucune valeur, ont un prix considérable, par contre. La grandeur du prix compensant l'absence de valeur.
Vous parlez effectivement de cette crise des valeurs, mais revenons un petit peu au musée que vous désignez comme un musée complètement explosé aujourd'hui, que vous expliquez par une muséification forcenée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette contradiction?
Je parle du musée explosé à propos d'un phénomène très particulier qui a été le phénomène des écomusées.
Et qui ne concerne pas l'intérêt là, du livre pour celui qui connaît un peu l'art.
Oui.
C'est justement que vous parlez aussi des musées en général. Vous resituez les musées d'art dans l'ensemble des musées.
Oui, c'est-à-dire que je rappelle que le projet mirifique, merveilleux, enthousiasmant du musée moderne est né en 1793. Des idéaux révolutionnaires, et l'idée à l'époque était de faire un musée central des arts et des sciences. Autrement dit, on n'admettait pas que les arts puissent exister sans les sciences, et on n'admettait pas qu'on puisse considérer les sciences sans les arts. Bon, cet idéal-là, il n'a pas vécu très longtemps. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement que les musées d'art, avec présentation de cette espèce d'abstraction, à mon sens monstrueuse, que seraient des œuvres d'art, en dehors de tout contexte. Alors face à cette espèce d'usurpation et de falsification de l'œuvre d'art, il y a eu, dans ces 30 dernières années, des tentatives de redonner à l'art un sens dans la société, en particulier en imaginant des musées que j'appelle explosés, qui ont été marqués par l'expérience des écomusées, c'est-à-dire des musées reliés à la réalité physique, géographique, matérielle, ouvrière d'un territoire donné. Ça a été une utopie qui a duré quelques années, puis qui a disparu. Il existe encore des écomusées au Creusot, à Sabre-Marquez, mais qui restent un peu comme des curiosités. Donc le musée s'est replié sur lui-même, plus encore qu'autrefois. Le musée d'art s'est replié sur lui-même, dans le même temps où les musées consacrés, par exemple, aux sciences, ont commencé de dépérir. Le muséum de Paris dépérit, le muséum est dans un état de décrépitude scandaleuse, les musées de médecine sont quasiment tous fermés, et leurs collections sont mises en caisse ou quasiment mises à la vidange. sous couvert de culture avec un grand C et d'art avec un grand A, en fait, on a une mise au rebut d'une immense partie de notre culture, précisément, et qui me laisse pensif et triste sur le futur immédiat de cette même culture.
Vous parlez du musée aussi comme un acteur essentiel du culte des images d'aujourd'hui et de notre idolâtrie commune, je vais dire.
Oui, oui, mais en même temps, c'est un culte...
Ou dans l'air du temps.
Oui, c'est ça, mais qui ne repose sur aucune foi, sur
Bien
aucune
sûr.
Croyance et sur aucune religion. On voit défiler des centaines de milliers de gens devant des œuvres, avec une passivité tout à fait étonnante, parfois aussi avec un manque d'égard vis-à-vis des œuvres à la limite du scandale. Il suffit d'aller se promener au Louvre pour voir à quel point les visiteurs désormais malmènent les œuvres d'art physiquement, ce que je n'ai jamais vu autrefois. Ce qui prouve aussi à quel point ces œuvres leur sont étrangères, alors même qu'ils font l'effort de venir au musée. Donc ils sont face à un patrimoine extraordinaire d'images qu'ils ne comprennent pas. Et donc ils ressortent de là avec une espèce de désappointement bien plus considérable que l'éventuel désappointement qui saisissait les pèlerins d'autrefois quand ils allaient à Compostelle ou à Chartres obtenir la grâce d'une toute-puissance divine ou angélique. Il y a là une espèce de tromperie, si vous voulez, qui est tout à fait étonnante.
Que cherche-t-on alors dans les musées aujourd'hui ?
D'abord un recours à la solitude, puisque nous sommes dans une société de gens extrêmement solitaires. Donc on va au musée pour vérifier qu'il y a beaucoup d'autres gens solitaires comme vous. Moi, ça me fait penser aux églises, à certaines églises le dimanche matin, qui sont remplies de gens solitaires, de veufs, qui viennent là, on ne sait pas très bien pourquoi, dans l'espoir d'une foi commune qui n'existe évidemment pas. Et avec, à la sortie, un désespoir, une solitude encore plus accrue. Donc, ce n'est pas tout à fait ça, l'œuvre d'art, tout de même.
Vous avez repris cette expression de l'abattoir culturel.
Oui, c'était une expression de Georges-Henri Rivière, à ma manière.
Qui désigne bien ce phénomène, en fait.
Oui, l'expression un peu forte, mais qui désigne effectivement assez bien cette espèce de phénomène moutonnier qui n'a aucun sens, qui est totalement stérile, et qui est doublement stérile, qui est stérile vis-à-vis des néophytes qui vont au musée, parce qu'on leur a dit qu'il fallait aller au musée, mais qui, n'étant pas préparés, ne savent absolument pas ce qu'ils vont voir. De ce point de vue-là, si vous voulez, la multiplication de l'offre culturelle n'a aucun sens face à l'absence de culture. Le culturel peut être aussi grand, aussi vaste, aussi nombreux que vous voulez. S'il n'y a pas au départ d'une culture, c'est rien, rien du tout. Mais c'est aussi néfaste vis-à-vis des gens qui, eux, vont au musée en sachant pourquoi ils vont au musée, c'est-à-dire des gens cultivés, et qui n'y vont plus parce que c'est absolument désespérant désormais d'aller tenter d'entrer dans une salle de musée ou de voir une exposition. Donc là, si vous voulez, les gens directement concernés n'y vont plus. C'est une position qui semble extraordinairement élitiste, et qui ne l'est pas. J'ai enseigné l'histoire de l'art pendant 30 ans de ma vie, y compris dans des institutions d'éducation populaire. J'ai adoré faire ce travail d'enseignement et d'éducation, mais ce que j'en vois aujourd'hui, c'est une espèce de parodie presque obscène, pour reprendre l'idée des abattoirs.
Mortifère.
Et mortifère, parce qu'il y a à la fois la désillusion d'une partie de ceux qui viennent là, le désintérêt progressif de ceux qui n'y allaient, qui n'y vont plus, et les dangers aussi que courent désormais les œuvres face à cet afflux de gens pour lesquels elles n'ont jamais été faites.
Vous pensez que Malraux et sa vision de l'art ont une responsabilité dans cette évolution ?
Oui.
C'est quelque chose aussi connu du grand public, pas seulement du milieu de l'art. C'est un nom qui parle à tout le monde.
Oui, il y a eu tout un courant dont Malraux est la figure la plus éminente, mais enfin, qui était représenté aussi par Elifort à une certaine époque. Une vision très idéaliste et héroïsée de l'art comme expression de l'homme et comme seule ressource face à la mort. Bon, c'est magnifique. La seule réponse de l'homme à la mort, c'est l'œuvre d'art. Bon, très bien, mais en fait, c'est une vision qui n'est pas juste, d'une part, parce que, on ne va pas faire le procès de Malraux, je ne voudrais pas le faire, c'était un homme extraordinaire et dont l'œuvre aujourd'hui résiste encore magnifiquement. On peut encore aujourd'hui lire Malraux alors qu'il y a d'autres auteurs contemporains qu'on ne peut plus lire. Donc, c'est un très grand écrivain, je suis moins sûr qu'il ait été un grand ministre de la culture parce qu'il a favorisé une vision de l'approche de l'œuvre d'art qui me semble totalement fausse.
Qui peut être un peu à l'origine d'une nouvelle approche et de ce temps du dégoût que...
Oui, en tout cas, qui est proche de cette espèce de désincarnation de l'œuvre d'art, de cette espèce d'hypostasie de l'art avec un A majuscule et du fait qu'on n'a plus du tout conscience qu'une œuvre d'art est tout de même reliée à un contexte spirituel, historique, spécifique. Et qu'on ne peut pas, comme ça, mettre les unes à côté des autres des œuvres venues d'horizons culturels totalement contradictoires. Ce que j'oppose à Malraux, par exemple, c'est le fait que D'une part, vous avez dans la religion orthodoxe des fidèles aujourd'hui dans les musées russes qui se prosternent devant les icônes, parce que pour elles, les icônes ne sont pas des œuvres d'art, ce sont des œuvres sacrées, en tout cas des œuvres saintes devant lesquelles on pratique la proskynèse. Vous imaginez aujourd'hui des gens au Louvre aller se prosterner devant la peinture d'une Madone à l'enfant, et pourtant cette Madone à l'enfant était une œuvre sainte au départ. Elle était faite pour honorer la Vierge et son enfant, et pas du tout pour satisfaire, de la façon la plus douteuse qui soit, un public de profane et bruyant. Donc si vous voulez, il y a là un écart, mais ça se passe en même temps. C'est aujourd'hui en Russie qu'on voit ce retour à l'adoration des icônes. C'est pas le Moyen-Âge, c'est en ce moment. Il y a ça d'une part qu'on peut opposer, l'idéalisme de Malraux, et l'autre idée, c'est qu'un certain nombre de peuples à la recherche de leur identité, contrairement à nous qui refusons de parler d'identité, qui serions traînés devant les tribunaux si jamais je vous ai parlé de réflexe identitaire, bon, ces peuples-là en quête d'une identité perdue n'hésitent pas à réclamer les œuvres qui pour eux ne sont pas des œuvres d'art, sont des œuvres qui incarnent leur identité culturelle, spirituelle et éventuellement religieuse. Alors c'est des peuplades en général lointaines, c'est les Indiens Haïda de la Colombie-Britannique qui réclament leur totem, c'est le Vanuatu, mais c'est aussi tout récemment les Maoris qui ont demandé la restitution des têtes tatouées, qui étaient juste là considérées comme des objets d'ethnologie, mais en plus de ça chargés d'un contenu artistique extrêmement fort. On les écoute et on a restitué toutes ces œuvres.
Ils ne sont pas suffisamment entendus, à votre avis
Ah si, ils sont tout à fait entendus. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est...
Il y a eu des restitutions, je veux dire.
Il y a tout un fond, effectivement. Mais c'est sur des exemples, aussi bien le côté orthodoxe russe, avec les icônes, que le côté peuple premier, avec la restitution des œuvres qui fondent leur identité culturelle et spirituelle. À partir de ces deux exemples, j'oserais poser le problème... totalement iconoclaste et totalement fou, c'est vous qui allez me faire passer pour un fou. 70% des œuvres des musées sont des œuvres qui relèvent d'une iconographie religieuse extrêmement précise. Est-ce que l'Église ne pourrait pas un jour demander la restitution de toutes ces œuvres religieuses? Bon, je dis cela avec un peu d'ironie, Je pose le problème. Toutes ces œuvres, le contenu des musées, qui ne servent à rien et qui sont constituées à 70% d'œuvres dont le contenu est un contenu religieux, eh bien, ces œuvres-là ne pourraient-elles pas retrouver un sens dans un autre contenu? Évidemment, je dis cela cum grano salis et avec un petit sourire au coin des lèvres, parce que bien évidemment, l'Église, en particulier en France, est très loin de ces idées-là.
De ces idées-là, et de pouvoir aussi réaliser ça, les églises sont fermées,
évidemment, bien sûr.
Les œuvres sont volées. Et puis, dans les années 50 et 60, il y a eu, de la part des prêtres même, la volonté de se débarrasser d'objets...
Se débarrasser, le mot, effectivement.
Superbe.
Tout à fait.
Je sais que certaines œuvres ont fini au fond des fleuves, à proximité des rivières.
Mais c'est,
c'est pas pour vouloir...
Parce que les curés eux-mêmes n'avaient même plus la capacité de comprendre ce qu'ils avaient sous les yeux.
Alors, selon vous, le goût de notre époque pour l'art contemporain...
Oui, bon, ce qu'on appelle l'art contemporain.
Voilà, la performance, le décalé, bref, la création ex nihilo, c'est le signe d'une mutation sociale d'envergure, décryptée par Marcel Gaucher et Giulio Agamben, deux auteurs dont vous approuvez la pensée. Oui. Alors, ces philosophes aident-ils à penser aussi ce que vous qualifiez ce temps du dégoût? L'homme total d'un côté, l'individu total ou l'homo sacerdotum de l'italien Giulio Agamben.
Oui.
Parce que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je m'attendais à, bien entendu, de l'histoire de l'art, mais pas seulement. Là, vous allez au-delà de l'analyse qui concerne les arts. Vous resituez tout ça dans une crise beaucoup plus générale, presque de civilisation.
Oui, bien sûr, c'est une crise de civilisation.
Et vous y placez le statut de l'artiste, évidemment.
Et le statut de l'œuvre d'art.
Et le statut de l'œuvre d'art.
Parce que selon moi, encore une fois, l'art est une abstraction récente qui n'a aucun sens. Il n'y a pas d'œuvre d'art qui n'ait pas un tel lien avec l'histoire ou avec la métaphysique ou avec une transcendance qui lui donne un sens. Et par conséquent, encore une fois, les manifestations d'un certain art contemporain qui ne sont là que pour, exacerber l'intériorité d'un homme nommé artiste sont pour moi des choses absolument terrifiantes. Le triomphe de l'art contemporain, en tout cas le succès de l'art contemporain, sont des mots. En vérité, quand vous allez voir ces expositions dites d'avant-garde, il y a très peu de monde, donc ça concerne un petit milieu de gens qui se reconnaissent de ce type d'œuvre. Et d'autre part, ça n'intéresse les gens qu'à partir du moment où se greffe un phénomène de mercantilisation de ces œuvres, avec des chiffres à l'appui qui font que tout le monde ouvre des yeux ronds, une valeur qui n'existe pas, mais avec un prix qui, lui, est devenu énorme.
Cette crise des valeurs dont vous parliez tout à l'heure, elle est à double niveau. Les valeurs esthétiques et morales, et puis la valeur marchande des œuvres, c'est un gros problème, puisque vous expliquez que le système est complètement verrouillé par les institutions.
Oui, enfin, il est verrouillé par un certain nombre d'individus décideurs qui fonctionnent comme des agences de notation dans le système bancaire, qui notent les pays, et avec l'appui in fine d'une institution publique qui semble donner sa garantie d'État à des émissions que moi j'estime frauduleuses. C'est-à-dire, vous avez d'une part une encaisse or, inaltérable, qui est le patrimoine conservé dans les musées nationaux, et d'autre part, vous avez l'émission d'assignat, monnaie papier, sans aucune valeur, mais dont les prix croissent à une vitesse prodigieuse. Et le phénomène est évidemment le même que celui qui a déclenché la crise de 2008, les hedge funds ou les créances pourries, le fait de vendre des choses qui n'existent pas. Et néanmoins, cette économie virtuelle produisant des effets qui semblent réels. Jusqu'au moment où, évidemment, tout s'écroule d'un seul coup. La spéculation sur un certain nombre d'œuvres d'art considérées comme incarnant la contemporanéité, l'art contemporain, les artistes contemporains, ça relève de la même imposture. Et ça roule d'ailleurs sur des chiffres à peu près comparables.
Vous dénoncez dans le livre le musée de Schaerlager.
Schaerlager, oui, qui n'est pas un musée.
Qui n'est pas un musée, mais qui est un entre-deux, justement, un peu étrange, qui sert de coffre-fort à ces manipulations, entre guillemets,
oui,
financières.
Ça.
Les manifestations culturelles,
oui.
Expression que vous détestez oui. Par excellence, mais qui existent, ces événements orchestrent une montée des prix de certaines œuvres.
Oui, oui.
Disons que vous revenez avec des mots de guillotine, mais un raisonnement très juste sur ces mécanismes. Vous pointez du doigt aussi le fait qu'aujourd'hui, une œuvre d'art, même un chef-d'œuvre, est duplicable dans l'hiver de la culture. Et vaut-il mieux l'œuvre dégradée
oui.
ou la copie parfaite
oui. Là aussi, je joue un peu sur le paradoxe. Et je pense qu'on a dû être très étonné que quelqu'un comme moi, si
bien
j'ose
entendu.
Dire, puisse finalement, au bout du compte, se mettre à défendre
qu'est-ce
la
qui
réplique
vous a amené à penser ça
plutôt que la relique, comme je dis. Parce que la relique se dégrade, et en plus parce qu'une œuvre d'art n'est pas une relique, alors que la réplique, elle, aujourd'hui, peut acquérir une qualité de matière et de couleur telle qu'elle est supérieure, effectivement, à l'original, qui est plus ou moins altéré. Alors je donne l'exemple qui est très stupéfiant. Moi-même, j'ai été convaincu par cet exemple. Je ne l'étais pas avant. Des Noces de Cana de Véronèse, dont une immense réplique grandeur nature a été installée à San Giorgio Maggiore à Venise, dans l'ancien couvent, dans l'ancien réfectoire des moines, là où elle était à l'origine, avant que Napoléon ne la détache et ne la fasse venir à Paris. Elle est donc dans sa vraie lumière, elle est dans son véritable lieu qui rappelle à quoi servait cette peinture, la destination de cette peinture, et du point de vue physique, elle est beaucoup plus belle, je vous avance le terme, que ce qui reste des Noces de Cana après restauration, mais aussi après destruction partielle, au musée du Louvre de l'autre côté de la Seine. Donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, les progrès de la technique sont tellement extraordinaires que l'on peut faire des répliques qui sont plus justes, plus belles, plus fidèle que les restes de l'œuvre originale, détériorée. Et en plus, avec l'avantage extraordinaire que ces copies, on peut les mettre là où elles furent à l'origine, en leur redonnant le sens qu'elles avaient à l'origine. C'est vrai aussi des métopes du Parthénon, bien évidemment. On pourrait faire des copies parfaites. Personne, pas même un expert, ne pourrait voir la différence que l'on remettrait sur le Parthénon. Et ainsi de suite. Il y a des tas d'exemples comme ça. La fresque de Piero della Francesca de la Madonna del Parto, qui a été déplacée de façon scandaleuse, pourrait être remise là où elle fut autrefois et où elle avait un sens, pas comme aujourd'hui. Alors évidemment, il y a une part de provocation dans ce que j'avance là. Là encore, une provocation délibérée, ou jusqu'où peut-on aller dans ce genre de provocation. Mais en même temps, ça permet de penser à ce que c'est effectivement qu'un musée, à quoi sert un musée, quel est son rôle. Est-ce que c'est un entrepôt de pièces venant de toutes les parties du monde et beaucoup pillé d'ailleurs à travers les guerres et les conquêtes, ou bien est-ce qu'il faudrait peut-être songer à redonner à chacune de ces œuvres sa dignité, c'est-à-dire son sens, c'est-à-dire ce à quoi elle servait quand elle fut conçue.
Alors effectivement, dans l'hiver de la culture, il n'y a pas de réponse, mais
des questions
comme vous venez
posées,
de le dire, oui. Bien sûr. Et la fin est très très belle quand même, enfin moi je la trouve très belle, c'est très court, mais c'est dédié aux artistes. Je vais lire juste la fin,
C'est
à moins que vous vouliez la lire.
Non, je vous en prie.
On peut comprendre que le phénomène ait frappé les imaginations, qu'il suscite l'indignation. Si l'on est si fortement choqué, c'est moins par la nature de ces œuvres qui se veulent délibérément choquantes que du fait qu'elles sont présentées là, imposées au regard, inévitables, pourvues du sceau de l'autorité, dans des églises, dans des palais et des musées, avec l'appui de la bénédiction de ces puissances. les gesticulations convenues des gens d'église et des fonctionnaires d'État, admirant l'art contemporain, si contraire à leur fonction et à leur mission, évoquent les pantomimes burlesques des fêtes des foules lorsque le Moyen-Âge touchait à sa fin. Cela aurait peu d'importance, mais entre-temps, combien d'artistes, dans le siècle qui s'est achevé et dans celui qui commence, incomparablement plus maltraités que leurs compagnons de la fin de l'autre siècle, qu'on avait appelé des artistes maudits, ont-ils disparu, en effet, sacrifiés, dans l'indifférence des pouvoirs supposés les aider, morts sans avoir été reconnus, désespérés trop souvent de cette ignorance. C'est pour eux que ce petit livre a été écrit. Voilà, un grand merci,
merci
pour le
vous.
Lecteur qui arrive jusque-là, mais c'est pas très long à lire.
Oui,
hein.
C'est pas très long.
Je ne voudrais pas induire en erreur nos lecteurs et nos auditeurs. C'est un très beau livre qui, justement, dénonce tous ces conformismes et qui permet de resituer les choses dans l'histoire beaucoup plus qu'on ne le croit. Voilà, merci Jean-Claire.
Merci à vous.